Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais à mon tour vous saluer chacun d'entre vous, tout le monde depuis hier soir, c'était hier soir déjà, avant-hier soir, tout le monde depuis hier soir se salue et se souhaite une bonne année et s'adresse des bons voeux. Savez-vous la différence entre les voeux du monde qui sont lancés, je dirais, à un vague destin, et nos vœux en tant que croyants en Jésus-Christ. Nos vœux en tant que croyants, en tant que chrétiens, ne sont pas des vœux pieux. Ce ne sont pas des vagues appels à un destin aveugle et impersonnel, à une force inconnue, mais ils prennent la forme d'une bénédiction et d'une prière adressée au Père de miséricorde, qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des espoirs incertains, mais c'est une bénédiction qui s'appuie sur les promesses de la parole de Dieu et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a prié pour ses disciples. Il a formulé des prières pour ses disciples, pour ses enfants. Et nos vœux, en tant que croyants, ne sont que la répétition, l'application de la prière de Jésus à nos vies et à la vie de nos bien-aimés, frères et sœurs. Et c'est cela qui fait la différence. Alors permettez-moi de prier simplement en ce début d'année 2022. Seigneur, d'abord merci. Merci parce que tu nous as conduits jusqu'à maintenant. Et Seigneur, nous avons reconnu et nous reconnaissons ta bonne main souveraine sur nous. Seigneur, nous avons marché sur des chemins que nous ne connaissions pas, que nous n'avions pas prévus ou imaginés, ou plutôt nous les avions imaginés autrement. Mais Seigneur, merci pour ta sagesse qui n'est pas notre sagesse. Merci pour tes voix qui ne sont pas nos voix. Merci pour tes pensées qui ne sont pas nos pensées. Seigneur, nous nous inclinons devant toi et nous nous soumettons à ta Seigneurie bienveillante. Alors Seigneur, je te prie pour mes frères et pour mes sœurs pour cette année 2022, pour chacun d'entre eux. Tu les connais personnellement par leur nom. Tu connais leurs besoins, leurs aspirations, leurs désirs. Seigneur, tu es un Père pour eux, tu es un Père pour nous et tu es bon. En toi, il n'y a pas de méchanceté. En toi, il n'y a pas de manigance. En toi, il n'y a pas de perversité. En toi, on ne découvre pas de complot. Oui, Seigneur, tu es bon. Et Seigneur, je prie pour que tes desseins s'accomplissent pour chacun de mes frères et sœurs, pour qu'ils puissent te reconnaître dans toute leur voie, facile ou difficile. Père, par ton cher Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, bénis tes enfants abondamment. Réponds à nos prières, réponds à leurs prières. Continue à nous conduire. Continue à les conduire sur les sentiers, quels qu'ils soient. Seigneur, je regarde à toi et à la prière que tu as faite pour nous, pour chacun. Je m'appuie sur toi qui as prié ainsi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Oui, que la prière de Jésus-Christ nous accompagne durant cette nouvelle année. Donne la paix selon ta parole. Donne la joie selon ta parole. Donne-nous de garder ta parole selon ta parole. Donne-nous de parler en ton nom selon ta parole. Donne-nous d'être un selon ta parole. Donne-nous d'être gardés du mal selon ta parole. Donne-nous d'être envoyés dans le monde selon ta parole. Donne-nous de voir ta gloire selon ta parole. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez encouragés par cette nouvelle année, pour cette nouvelle année de 2022, selon la parole de Jésus-Christ. Alors ce matin, mes amis, je ne vais pas faire de prédication comme d'habitude. Je vais plutôt donner une sorte de feuille de route pour cette année. Essayez de vous décrire ce qui nous semble important pour cette année 2022. Nous avons déjà eu des réunions du conseil de direction, des équipes de service. Nous avons réfléchi, nous avons prié. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous vivions cette année 2022 ? Voilà. Alors nous avons appris, parce qu'il fallait faire le bilan, Alissa nous l'a rappelé, et nous avons appris ces deux dernières années que nos programmes peuvent être tout à fait perturbés, chamboulés, et que face à ces perturbations, nous-mêmes, nous pouvons être perturbés, n'est-ce pas ? Mais nous avons appris à nous confier dans le Seigneur. Confier dans le Seigneur parce qu'il se présente à nous comme le bâtisseur de l'Église. C'est lui qui construit l'Église. Et que rien ne pourra prévaloir. Rien ne pourra prévaloir contre cette Église que Dieu construit. C'est lui qui la tient dans ses mains. Et ça, ça nous rassure. Mais notre responsabilité est aussi de nous projeter en avant, même si nous marchons jour après jour. Le dernier trimestre, depuis le week-end de rentrée, le Seigneur nous a conduits par des prédications, par le carrefour de l'enseignement. Il a venu, par exemple, de Nicolas Farelli, à réfléchir et à renouveler le sens à deux thématiques qui se croisaient. La première, c'était la communauté chrétienne, redonner du sens à la communauté chrétienne. Qu'est-ce que nous vivons lorsque nous sommes ensemble ? Qu'est-ce que nous voulons vivre en tant que frères et sœurs dans la même communauté ? Hein ? Et la seconde, c'était comment faire des choix et prendre des décisions selon Dieu. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Nicolas Farelli nous a exhortés à revisiter notre confession de foi. Alors cela, nous allons le faire dans le cadre du cercle biblique. Ce sera toujours le dimanche matin, de 9h à 9h45, dans la salle du bar, pour permettre à la louange de pouvoir répéter correctement. Et si vous deviez prendre une décision pour cette année, prenez la décision, oui, je veux venir au cercle biblique, avec mes frères et sœurs, écouter la parole de Dieu ensemble. Pas simplement lire la Bible en un an, chez vous, c'est très bien. Prenez la décision de venir aussi au cercle biblique. Pour ce semestre devant nous, il nous semblait bon, en équipe de direction, que nos prédications soient conduites sous deux axes complémentaires. Le premier axe, c'est développer notre Église, dans notre Église, la culture du témoignage. Devenir des témoins ou redevenir des témoins. Le Seigneur a fait de nous ses témoins et il nous a placés dans le monde, chacun d'entre nous, afin que nous partagions cette parole de vie que nous avons reçue et qui nous a transformés. C'est pour cela que nous sommes des témoins. Nous ne racontons pas simplement de choses qui se sont passées il y a 2000 ans. Ces choses qui se sont passées il y a 2000 ans nous ont impactés aujourd'hui, nous ont bouleversés aujourd'hui. Et le Seigneur fait de nous ses témoins de cette vie. Nous avons cru parce que d'autres ont été des témoins vis-à-vis de nous. C'est la communauté entière qui doit être renouvelée dans la vision de l'évangélisation et du témoignage. Nous avons adopté, certainement à notre insu, la pensée que témoigner doit être l'affaire de spécialistes ou de programmes ou de méthodes d'évangélisation. Nous avons gardé effectivement la parole qui nous a été rappelée ce matin, que nous sommes sel et lumière dans ce monde. Mais le constat est, peut-être je me trompe, n'avons-nous pas mis notre lumière sous le boisseau ? N'avons-nous pas perdu un peu de la saveur du sel ? Il s'agira donc pour nous, durant ces mois de cette année 2022, de demander au Seigneur de nous renouveler ensemble dans un travail communautaire, dans la vision du témoignage à Jésus-Christ, et puis à nous équiper et nous donner des outils simples et pratiques pour faciliter le témoignage individuel et communautaire. Plus que des méthodes, plus que des programmes, c'est une culture d'Église que nous demandons au Seigneur d'implanter en nous. Évangéliser, c'est témoigner, c'est annoncer, c'est prêcher, c'est enseigner, c'est parler avec d'autres, avec pour but la conversion à Jésus-Christ et l'incorporation des nouveaux croyants au sein de l'Église locale. La conversion n'est pas de notre fait, c'est une œuvre de Jésus-Christ dans le cœur des gens alors que nous parlons et que nous témoignons de l'Évangile. Notre rôle est juste d'inviter les gens qui sont autour de nous d'inviter, à faire passer un message, parce que l'évangile c'est un message. Que Dieu, ce message que Dieu a tout réconcilié avec lui-même par le sacrifice du Fils, nous ne sommes pas des chasseurs de têtes, nous ne partons pas à la conquête des gens, nous sommes des témoins. Nous disons ce qui a été prêché depuis le commencement et nous transmettons ce qui a percuté notre cœur et les fruits que cela a produit en nous. Nous supplions les gens à faire la paix avec Dieu. Mes amis, je voudrais vous rappeler que l'Église avec un grand E ne fait que croître depuis ses commencements. Chaque Église locale est appelée aussi à grandir de manière numérique. Pierre, dans son appel, dans Actes 2, verset 42, il me semble, il dit ceci, « La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, écoutez, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Jésus va dire encore, « J'ai d'autres brebis dans ma bergerie. J'ai d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. » Il a dit, en parlant de la croix et du sacrifice, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Et encore dans les Actes des apôtres, il est marqué, « Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Il y a un accroissement de l'Évangile. Alors vous me connaissez, je ne suis vraiment pas trop fan des méga-church. Et ma préférence est vraiment pour les églises, on dit comme cela, à taille humaine. Je n'ai pas la folie des grandeurs. Au conseil de direction, on n'a pas la folie des grandeurs. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de numerus clausus à l'église. Alors l'église doit chercher à croître, à grandir. Et elle le fait par le témoignage des croyants, de chacun d'entre nous, là où Dieu nous a placés. Et nous devons rester ouverts à cette perspective. Dieu veut ajouter à l'Église ce qu'il sauve. Et nous disons, non, c'est trop, c'est pas trop. 120, c'est trop. Alors, vous savez qu'on a Arlette en ce moment à la maison. Et chaque fois qu'on lui met une petite portion dans son assiette, elle dit, oh, c'est trop. Voilà. Et moi, je lui redis, Chantal lui redit, mais non, c'est pas assez, continuez, une cuillère de plus. Hein. Alors, pour certains, 150 personnes dans un culte, c'est trop. Le Seigneur veut rajouter une cuillère de plus. Ce n'est pas le nombre qui doit arrêter notre mission de témoignage. C'est le temps qui mettra un terme à notre mission de témoignage, le temps du retour de Christ. Mais tant que ce temps n'est pas là, notre ordre, notre mission continue et demeure. Nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Si la culture du témoignage grandit au sein de notre assemblée, tous les aspects de notre vie communautaire vont être impactés. Comment accueillir les personnes nouvelles? Comment les enseigner? Comment s'occuper de leurs enfants? Comment vivre les groupes de maison autrement? Comment organiser nos cultes de manière autrement, etc., etc. Ça, c'est notre premier axe de prédication, développer la culture du témoignage au sein de notre assemblée. La deuxième thématique, et qui va de pair, est celle de la croissance spirituelle, individuelle et communautaire, la croissance spirituelle. Notre témoignage ne sera crédible que si nos vies sont en conformité avec ce que nous professons. Il s'agira donc de grandir en Christ et développer une relation de qualité avec le Seigneur pour que nos vies soient cohérentes avec notre témoignage. Pour être des témoins sérieux de l'Évangile, il y a une nécessité de cohérence entre la foi et le témoignage comportemental de la foi. Alors, durant ce temps où nous allons axer aussi sur notre croissance en Christ, nous aborderons des thèmes comme notre identité en Christ, notre vocation, notre appel, le rejet des idoles que l'on peut se fabriquer. Luther disait que l'homme est une usine de fabrique d'idoles. Nous fabriquons des idoles. Les changements de valeur qu'induit l'Évangile, la qualité de notre relation et de notre piété personnelle avec le Seigneur, le combat spirituel et d'autres thèmes liés à la croissance chrétienne. Au fait, quel est le but de la croissance chrétienne ? C'est de ressembler à Jésus, de le glorifier individuellement et collectivement, célébrer la gloire de sa grâce, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. C'est là que se trouve la finalité de notre vie, et nous tournerions en rond si nous ne le savons pas. L'évangélisation n'est pas le centre de la vie chrétienne, et croître pour croître n'est pas un but en soi. Nous évangélisons, nous témoignons, nous grandissons à la ressemblance de Christ pour que Dieu soit glorifié en toutes choses. C'est ça le but, le moteur de nos vies. C'est notre mandat global et définitif. Alors voilà donc les deux thématiques croisées que nous allons aborder le dimanche matin durant cette année 2022, en tout cas durant le premier semestre de l'année 2022. Mais l'Église n'existe pas simplement que le dimanche matin, n'est-ce pas ? Et je voudrais continuer à développer notre feuille de route. Il s'agit aussi de développer notre souci pastoral les uns des autres. Continuer à insister à ce que tous nous puissions faire partie d'un groupe de maison où la communion fraternelle se vit au quotidien et dans la semaine et pratiquement. Si vous pensez que Jésus et vous, c'est suffisant, que Jésus et votre culte personnel, c'est suffisant, ou que Jésus, vous et Internet, c'est suffisant, eh bien laissez-moi vous dire que votre Jésus est un tout petit morceau de Jésus. Un tout petit morceau de Jésus, même pas son petit doigt. Et je ne m'excuse pas de dire cela. Paul insiste lourdement sur l'Église comme corps de Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes un membre du corps. C'est réuni ensemble que Jésus-Christ est complet. Et nous avons besoin de comprendre que Jésus, au travers des autres frères et sœurs, et ne privez pas l'Église du petit doigt de Jésus. Venez amener votre compréhension de Jésus, votre relation avec Jésus au sein des groupes de maison. Ne restez pas seul. Ne laissez pas cette piété individuelle comme un arbre qui cacherait la forêt. Alors, si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison, vite, 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 allez voir Loïc à la fin. Je vais faire partie d'un groupe de maison. Hein ? Les groupes de maison se réunissent, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Mercredi, nous allons avoir une réunion ensemble, nous allons prier pour cette année 2022 et pour des sujets particuliers. Donc je vous invite déjà, ce mercredi à 20h30, à venir prier ensemble. Je parlais avec une sœur qui me disait, est-ce qu'il y a des obligations à faire partie d'un groupe de maison ? Non, je dis non. Les groupes de maison sont aussi des portes d'entrée de l'Église. Ça ne fait pas partie d'un club. C'est aussi un moment à inviter, pour inviter aussi d'autres personnes. Il n'y a pas de souci pour cela. Les groupes de maison permettent de vivre à l'Église la dimension humaine que nous recherchons. Dans le souci pastoral des uns des autres, je vous rappelle aussi que des personnes se forment à la relation d'aide et au conseil biblique. Je me forme moi-même à la discipline du counseling biblique pour être mieux armé face aux difficultés que le peuple chrétien peut rencontrer. C'est quoi le conseil biblique ? C'est simplement connecter, faire matcher la parole de Dieu aux situations que l'on rencontre dans la marche chrétienne. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas. Rencontrez vos responsables de groupe de maison, rencontrez vos frères et sœurs, tout le monde est capable de donner des conseils selon la Bible. Venez me rencontrer, venez rencontrer les responsables de l'Église et nous vous accompagnerons aussi loin que possible avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a aucun sujet indélicat. Il n'y a aucun problème que l'on ne peut accompagner dans la prière, dans la grâce et dans le non-jugement. Il y a des ressources dans l'Église. Certainement imparfaites, mais des ressources quand même. Alors ne vous privez pas si vous combattez seul dans votre coin. Quels que soient les soucis que vous avez, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui pourra prier avec vous et vous accompagner un bout de chemin. Quelqu'un a fait remarquer lors de notre dernier conseil que la pyramide des âges de notre assemblée est en train de changer. Bref, que notre Église prend un coup de vieux. Bon, j'étais content quand même, ce matin, la louange, il n'y a pas que des vieux. Ouais. Je pense que cela est vrai, mais je suis très fier de notre jeunesse. Très fier de notre jeunesse. Lorsqu'il y a eu la conférence de Bastien sur Tolkien, c'est sûr que ça percutait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même une trentaine de jeunes qui étaient là. Ouais. Nos adolescents se réunissent tous les 15 jours, ils sont entre 10 et 15 adolescents à se réunir. Le nombre est assez important aux ateliers du maître. Les responsables ont constaté un manque de régularité des enfants plus jeunes, avec un turnover important. Mais il y a plusieurs points positifs. Les jeunes s'engagent, il y a de la place pour eux. Les parents s'engagent, peut-être pas assez. Et je vous exhorte en tant que parents à vous investir dans notre assemblée, auprès des enfants. C'est donc un défi pour nous. Mais les jeunes ont beaucoup de projets et nous voulons les laisser vivre dans leurs projets. Un week-end en Espagne, dans une église de Sabadell où nous avons rencontré le pasteur qui est venu prêcher ici. Un week-end de jeunes qui commencent à se préparer au mois de février, etc. On vous donnera les dates. Il y a une équipe qui est motivée, motivante et qui s'exprime. Et ça me fait ma joie. Vous ne pouvez pas savoir. Notre feuille de route pour cette année nous conduit toujours plus à nous impliquer dans les relations avec les autres églises évangéliques. Et c'est une bonne chose. Nous sommes reconnaissants, je vous en ai déjà parlé, de l'amitié qui existe entre les pasteurs au sein de notre pastorale nîmoise. Et nous aurons cette année, si Dieu veut, parce que le Seigneur est celui qui perturbe tous les programmes, nous aurons notre culte en commun au mois de juin avec toutes les églises évangéliques au stade des Costières. Alors voici un petit peu rapidement cette feuille de route. Je voulais que vous reteniez surtout les deux axes importants. Culture de l'Évangile et du témoignage et la croissance en Christ. Que vous puissiez prier pour cela, que vous puissiez déjà bien intercéder dans vos cultes personnels, dans vos groupes de maison et en parler. Comment développer la culture du témoignage? Comment faire pour que je sois un bon témoin? Comment être enthousiasmé par mon Seigneur pour que je puisse simplement être enthousiaste dans mes paroles autour de moi. Alors, mes amis, je voudrais juste terminer en disant, en rappelant, nous sommes des témoins de l'Évangile. Mais qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Il y a 15 jours, on a fait la fête de l'Église pour Noël. Et puis, il y avait ce magnifique verset qui était inscrit là derrière. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En ce début d'année, il y a tant de raisons de nous rapprocher ensemble de la personne de notre Seigneur Jésus. Et oui, parce que d'abord, l'évangile est un don. C'est un don. Un fils nous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. L'évangile est un don. Nous dénaturons sa nature, son essence, si nous faisons de l'évangile autre chose qu'un don. Et un don, vous savez, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, ça se reçoit. Et lorsqu'on le reçoit, on dit merci. On est reconnaissant. Un don en dit davantage sur la personne du donneur que de celle du receveur. Un don ne dépend pas des qualités, des compétences, des mérites du receveur, mais de celle du donneur. C'est ça qui est incroyable. Et nous avons un Dieu qui est bon, bienheureux. Wow. Un don n'est pas un dû ni un salaire venant d'une vie de labeur et d'une œuvre particulière. On ne forcera personne à recevoir ce don. Être témoin de l'Évangile, c'est informer de ce don. Il y a quelque chose de gratuit pour vous. C'est gratuit pour vous. Il y a un don. Jésus s'est donné pour vous. Et c'est inviter, témoigner, c'est inviter les personnes autour de nous à recevoir ce don. Deuxièmement, l'Évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas une morale, ce n'est pas une religion qu'il nous faut pratiquer. C'est une personne à recevoir. Ce don est une personne à recevoir. Le don de l'Évangile, c'est la personne du Fils. Comme quelqu'un l'a dit ce matin, hein, celui qui m'a vu a vu le Père. Recevoir le Fils, voir le Fils, c'est recevoir et c'est voir le Père. Celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Je fais partie de la famille de Dieu car je reçois le Fils et le Père m'adopte dans le Fils Jésus-Christ. Et si nous avons reçu Jésus, il est aussi la seule chose, la seule personne que l'on peut transmettre et donner au monde à notre tour. Ce que j'ai, je te le donne, disait Pierre. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai reçu, c'est le Fils. Ce que je peux vous transmettre, c'est le Fils, au nom de Jésus. Et puis troisièmement, l'Évangile est quelque chose de merveilleux. Le Fils, c'est pas n'importe qui. Et en ce début d'année nouvelle, combien avons-nous besoin d'élever les yeux vers celui qui est admirable ? Et ceci pour faire face à cette espèce de sinistrose qui s'est abattue sur notre société. Combien avons-nous besoin de celui qui donne des conseils pertinents pour nous diriger vers ce futur qui sauvera nous ? Combien avons-nous besoin du conseil de Dieu ? Et ce conseil, nous l'avons en Jésus-Christ. Combien avons-nous besoin de lever les yeux vers le Dieu souverain et souverain, puissant et souverain, capable de faire naître la paix dans nos cœurs ? Eh oui, il domine sur toute chose. Rien n'est en dehors de sa main. Et sa volonté, c'est quoi ? C'est la paix. Il est le prince de la paix. Son dessein est la paix. Notre avenir est la paix. Et je voudrais terminer simplement en citant l'apôtre Paul qui dit ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.